Oui, bonjour Emmanuel, les nouveaux chemins, comme vous le dites, commencent maintenant. Alors bonjour à tous et bienvenue, on est ensemble pendant une heure. Hey, you know what? Cette émission est préparée tous les jours par Tristan Grenassia, Géraldine Mosna-Savoie, Laure Andrion, Marianne Chassor et Geneviève Méric. Elle est réalisée cette semaine par Mydia Portis-Guérin, avec aujourd'hui à la prise de son Bernard Legac et Patrice Klein. Comme tous les jours, François Nodelman vous donne rendez-vous à 10h50 pour le journal de la philosophie. L'invité du journal aujourd'hui sera Éric Fourneret. Il viendra vous parler de son livre « Choisir sa mort » paru aux Presses universitaires de France. J-54. Si vous êtes en terminale et que vous avez découvert la philosophie en septembre dernier, il vous reste plus d'un mois et demi avant de plancher pendant 4 heures autour d'un sujet que vous découvrirez le 18 juin prochain. Un mois et demi, ça laisse le temps d'établir un programme de révision pour toutes les épreuves. Mais c'est pour vous aider à préparer celle de philosophie en particulier que nous avons pris le train pour aller nous installer le temps d'une semaine dans les lycées de Brest, afin d'écouter des professeurs de philosophie nous donner leurs conseils et leurs propositions de plans en partant d'un sujet type susceptible de tomber le jour du bac. Mais pour ceux qui ne sont pas en terminale, tendez l'oreille aussi, car c'est une bonne occasion de se demander à quoi sert la dissertation de philosophie et ce qu'elle nous apprend de la philosophie en tant que telle. Toute cette semaine est organisée en partenariat avec Philosophie Magazine, dont le hors-série spécial Bac Philo est en vente en ce moment même chez tous les marchands de journaux. Alors jusqu'à présent, deux sujets ont été traités cette semaine. Une communauté politique n'est-elle qu'une communauté d'intérêt ? Lundi, avec le professeur Patrice Point. Et obéir, est-ce renoncer à sa liberté ? Hier, mardi, en compagnie de Philippe Ouvrard. Aujourd'hui donc, troisième sujet, c'est le professeur Marie-Claude Héron qui vous propose le sujet suivant. Peut-on être heureux dans un monde injuste ?
Moi, si j'ai 11 en philo, je peux pas avoir moins de 8 en histoire géo, sinon j'ai aucune chance. Par contre, si j'ai au moins 16 en anglais, là, je peux avoir 9 en philo. 9, ça va.
Florian Martinez, bonjour. Alors, le jour du bac, vous êtes installé à votre table, vous ouvrez l'enveloppe, vous retournez la feuille des sujets, et là, parmi les sujets, vous avez celui-ci. Peut-on être heureux dans un monde injuste ? Alors, quelles sont les idées qui vous viennent à l'esprit face à ce sujet ?
Ça dépend, en fait, de la place qu'on a dans ce monde injuste, en fait. C'est-à-dire que si on est dans l'aristocratie, ou enfin dans ce qui colle à ça, en fait, l'injuste ne serait pas une contrainte, forcément, parce qu'il pourrait peut-être même nous apporter des plus.
Clémence Tondu.
Quand on lit les journaux, quand on écoute la radio, etc., on voit bien que le monde aujourd'hui, tout va pas bien dans le meilleur des mondes, quoi. Je pense qu'on a tous plus ou moins souffert un jour d'une injustice, et faut faire attention dans un sujet de philo à pas laisser nos ressentiments, tout ce qu'on a pensé, prendre le dessus sur un sujet comme ça.
Simon Landaboul.
Je pense que j'aurais tendance à très vite m'écarter, parce que, pas m'écarter dans le sens où je vais faire du hors-sujet, mais vraiment partir sur des exemples précis de la vie de tous les jours. Je pense que si j'ai une référence, Kant, ce serait pas mal là-dedans.
Bonjour Marie-Claude Héron.
Bonjour.
Vous enseignez au lycée classique de Kerrichen.
Oui.
Une classe de terminale L qui est avec nous aujourd'hui dans le CDI du lycée Vauban, cette fois-ci, donc c'est dans une cité scolaire qui héberge plusieurs lycées. On a entendu vos élèves, en début d'émission, exprimer leur réaction face à un sujet comme celui que vous avez proposé, que je rappelle, peut-on être heureux dans un monde injuste ? Il est intéressant d'entendre que vos élèves et beaucoup d'autres font la même remarque, se doutent quant à la possibilité d'utiliser une expérience personnelle pour traiter un sujet de philo, comme si il fallait tenir un discours philosophique et ne pas du tout faire référence à ce que l'on peut penser ou vivre. Est-ce que selon vous c'est une bonne attitude, un bon réflexe pour aborder un sujet de dissertation de philosophie ?
Alors je reconnais bien là les consignes qu'on peut leur donner, c'est-à-dire qu'on leur dit bien qu'une dissertation n'est pas un récit. Et que autant il est utile d'ancrer le sujet dans la réalité, de se demander d'où on peut partir pour se poser la question, donc de se poser la question à soi-même dès qu'on a choisi le sujet, autant on leur déconseille de d'être dans l'expression de leurs sentiments, de leurs émotions, de leurs affects, de leurs souvenirs. Donc il s'agit d'être à la fois concerné personnellement à partir de son expérience personnelle, mais en même temps de dépasser l'affectif vers un effort de conceptualisation, un effort de théorisation. Et c'est en ça que la pratique de la réflexion en commun en cours peut les aider et que la référence aux auteurs peut aussi les aider à ouvrir la réflexion.
Et en même temps, c'est vrai que la référence à une expérience personnelle, par exemple, peut être une bonne manière de se rappeler que la question que constitue l'intitulé du sujet est une question qui se pose à nous en tant qu'êtres humains et pas seulement aux philosophes. En l'occurrence, peut-on être heureux dans un monde injuste ? La question se pose, elle a un écho direct pour les élèves qui sont face à ce sujet-là, et ce n'est pas uniquement le prétexte pour déballer des connaissances philosophiques.
Bien sûr, hein, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous faites observer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas philosopher sans s'impliquer personnellement dans la réflexion. Et ça, c'est très très important de le dire, hein, c'est-à-dire qu'une dissertation, ce n'est pas un exercice de haute voltige intellectuelle. C'est pas faire le singe savant, et ça, moi, je suis complètement opposée à ce genre de pratique de la philosophie en terminale. On ne recherche pas l'érudition, on ne recherche pas à remplir des têtes, on cherche à ouvrir les esprits, et donc je leur demande systématiquement de commencer à se poser la question de savoir d'où ils pourraient partir dans leur vie personnelle, dans la société d'aujourd'hui, pour en arriver à se poser la question. Puisque la question qu'ils choisissent, ça doit être une question qui va surgir finalement de leur propre esprit. Ils doivent se l'approprier et ils le font dans le travail difficile de l'introduction. Moi, je leur dis toujours qu'une entrée en matière, par exemple dans l'introduction, qui est la première partie de l'introduction, ça doit être un moment où ils vont faire le lien avec la réalité, avec leur expérience personnelle, avec ce à quoi renvoie la question pour eux, très concrètement.
Alors, en l'occurrence, face à un tel sujet, peut-on être heureux dans un monde injuste ? Quelle est la question que pose le sujet véritablement ? Avant d'en venir à une définition des termes, de quoi parle le sujet ? Qu'est-ce qu'il questionne ?
Alors, je pense que les enjeux profonds du sujet, et je pense aussi que c'est comme ça que les élèves le ressentent, c'est qu'ils interrogent le caractère égoïste ou non du bonheur. Parce que je vois bien que si je peux être heureux dans un monde injuste, ça suppose que je fasse fi de ce monde injuste. C'est-à-dire que j'utilise des stratégies conscientes ou inconscientes pour me détourner de l'horreur du monde et continuer à être heureux sous la forme d'un bien-être individuel. Et ça, c'est quelque chose que les élèves sentent bien. C'est-à-dire qu'on doit se demander si la capacité à être heureux suppose un égoïsme forcené ou s'il serait possible d'être heureux tout en se sentant concerné et en faisant effort de prendre conscience de l'injustice du monde, voire de chercher à lutter personnellement ou collectivement contre l'injustice du monde. C'est-à-dire, est-ce que mon bonheur peut passer par la lutte active, collective ou individuelle contre l'injustice du monde ? Est-ce qu'il y a un bonheur altruiste en réalité ?
Voilà, mais on comprend en vous écoutant qu'on a forcément un avis et une réponse personnelle à donner à cette question-là. Oui. Et donc à partir de là, est-ce qu'on peut envisager un plan qui serait dans une première partie tenir l'avis inverse d'une autre, c'est-à-dire dire, par exemple, si je pars du principe que non, nous ne pouvons pas être heureux dans un monde injuste, commencer en disant oui, nous le pouvons, puis examiner dans quelle mesure non, nous ne le pouvons pas, et du coup, peut-être trouver une façon de dépasser l'opposition entre le oui ou le non. Est-ce qu'on peut partir de cette conviction personnelle qui forcément est suscitée par le sujet ?
Alors moi, ça dépend de ce qu'on entend par conviction personnelle. Parce que moi, je leur conseille toujours de garder pour la fin la conviction philosophique qui les convainc le plus personnellement, c'est-à-dire dans laquelle ils sont prêts à s'engager vraiment. Et donc ça, il faut avoir, ça suppose de se donner le temps au brouillon de réfléchir à la question. Et je pense qu'il faut faire la différence entre la conviction personnelle qui est travaillée, qu'on a confrontée à des objections, à des arguments, et l'opinion commune. Et c'est l'opinion commune, c'est par elle qu'on commence en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on peut, alors on peut faire dire tout et n'importe quoi à l'opinion commune. Hein. Et ça, on le sait bien. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un sondage, on ne va pas faire des statistiques pour savoir quelle serait l'opinion la plus répandue sur le lien entre le bonheur et l'injustice dans le monde. Mais on peut partir de ce que Platon appelait la doxa, mais qui reviendrait aujourd'hui à interroger la mentalité des sociétés contemporaines.
Alors, ce qui est difficile dans ce sujet-là, peut-on être heureux dans un monde injuste, c'est de savoir comment relier entre eux deux concepts qui paraissent très clés au sein du sujet. Dans le terme heureux, on entend le concept de bonheur qui est au programme de terminale, donc il est possible, en tout cas je le souhaite, que les élèves aient étudié ce cours avant le jour du bac. Donc le bonheur d'un côté, de l'autre, la justice. Et il peut paraître difficile d'essayer d'articuler les deux de manière naturelle et non pas artificielle. Le bonheur d'un côté, la justice de l'autre. Comment faire en sorte pour que la réflexion puisse faire jouer de manière dynamique ces deux concepts qui sont en tant que tels assez indépendants l'un de l'autre?
Alors, d'abord, je voudrais faire une toute petite remarque un petit peu professionnelle, un petit peu une remarque de prof. C'est que je trouve que les sujets qu'on donne ces derniers temps au bac ont la caractéristique de notre sujet, c'est-à-dire qu'on leur demande, on ne les interroge pas sur une notion du programme, parce qu'on les mettrait en démarche de restitution de connaissances. On les interroge sur la relation entre deux concepts philosophiques étudiés dans l'année, mais qui vont nécessairement ouvrir la réflexion, leur réflexion personnelle, puisqu'on n'y aura pas forcément répondu en cours. Donc ça sera à eux de faire l'effort, de mobiliser les connaissances qu'ils ont sur le bonheur d'un côté et les connaissances qu'ils ont sur la justice au sens moral ou au sens politique de l'autre. Et ça, c'est une vraie difficulté au bout de quelques mois de philosophie, hein, de réussir à faire le lien entre une notion, une notion de bonheur qui les renvoie au cours sur la morale et une notion de justice qui les renvoie au cours sur le sujet ou au cours sur la politique. Donc voilà, hein, ils ont tout est à jouer de leur part. Il y a une vraie invention en fait ici pour faire surgir le problème.
Alors vous êtes là pour nous proposer un exemple d'invention justement qui peut être engendré par la lecture de sujet. Il est temps de passer là vraiment à l'analyse précise du sujet avant de proposer une introduction. Comment est-ce que vous procéderiez face à un tel sujet?
Alors, je leur conseille toujours d'interroger la question. Et la première chose qui est à interroger, c'est est-ce que mon sujet, mon énoncé, contient un présupposé? Est-ce qu'il n'y aurait pas une affirmation déguisée dans cette question? Ici, c'est le cas, puisqu'on suppose d'emblée que le monde est injuste. Alors, qu'est-ce qu'on entend par monde? Et qu'est-ce qu'on entend par injuste? Alors, le monde, on peut dire que c'est la réalité. Qu'elle soit culturelle, naturelle, historique ou autre. Et l'injustice, justement, en lien avec la réalité, ça peut renvoyer à deux choses. Ça peut renvoyer à l'injustice de la nature, à ce qu'on appelle les coups du sort, à ce que les anciens appelaient le fatum, le destin, c'est-à-dire soit une nécessité néfaste, soit un manque de chance, comme on dirait aujourd'hui. Donc ça, c'est une première forme d'injustice. On pourrait dire que c'est une injustice métaphysique. Et la deuxième forme d'injustice, c'est évidemment l'injustice introduite dans le monde par les êtres humains, soit par leurs passions désordonnées, soit par leurs décisions arbitraires. Et là, on est dans une forme d'injustice qui, contrairement à la première, peut être changée. Et donc, on voit bien que dès qu'ils commencent à faire la distinction entre un monde qui serait injuste par nature ou par nécessité et un monde qui serait injuste par la volonté ou la décision des hommes, ils n'auront pas la même réponse à mobiliser. Et donc, il y a encore une chose à dire sur l'énoncé, c'est que la notion de bonheur et la notion de justice ne peuvent être pensées que par une conscience humaine. Et que ça aussi, c'est un non-dit de l'énoncé qu'il faut faire surgir pour déployer toutes les significations de la question. C'est-à-dire que je peux, dès que je problématise, inscrire mon sujet à l'intérieur de la conscience de l'homme et dire que, évidemment, pour l'animal, seul le plaisir existe. Et que seul ce qui est concret, sensoriel, matériel, peut être vécu et senti. Et donc que la question ne se pose évidemment pas pour l'animal.
Évidemment,
mais pour l'être
pas,
humain.
Mais pourtant, et ça vous le montrez bien, hein, c'est quelque chose qui est évident, mérite.
Oui,
en fait, il faut insister dessus puisque ça permet de distinguer en retour ce dont on parle.
Bien sûr.
Et écarter l'animal du champ de la réflexion là, sur le bonheur permet de mieux saisir la spécificité de l'homme en tant que tel.
Oui, tout à fait.
Le sujet a été analysé, vous avez proposé des pistes, il est temps de passer à l'étape de la rédaction de la dissertation. Il nous reste, nous, donc non pas 3 heures. On peut imaginer qu'il faut à peu près une heure et demie pour réfléchir autour du sujet. Oui. Est-ce que vous avez déjà un plan qui se dessine en tête et comment est-ce que vous rédigez l'introduction face à, après avoir proposé une telle analyse?
Alors, sachant que je commence stratégiquement par l'opinion commune, c'est-à-dire par essayer de présenter au mieux, c'est-à-dire sans la caricaturer, ce que les gens peuvent penser sans être nécessairement des spécialistes en philosophie, c'est-à-dire ce qu'ils peuvent penser au nom du bon sens. Je commencerai par dire que on peut être heureux dans un monde injuste. Et donc je sais aussi où je veux en arriver. C'est-à-dire que je commence précisément par cette doxa contemporaine parce que je veux en montrer les insuffisances. Et donc je sais que je vais pouvoir critiquer la position que j'ai essayé de présenter au mieux dans ma première partie en montrant qu'il n'y a pas de conscience humaine qui ne puisse et ne doive savoir que le monde est injuste et qu'il y a donc un caractère nécessairement tragique de la conscience humaine. Et en troisième partie, donc j'aurais à me poser la question de savoir si il existe des moyens légitimes de dépasser la conscience malheureuse. Est-ce qu'un homme en tant qu'homme ne peut faire autrement que de vivre l'injustice du monde dont il est soit le spectateur, soit l'auteur, soit la victime? Est-ce qu'il peut faire autrement que de renoncer au bonheur? Alors évidemment, évidemment, c'est pas forcément évident, mais en tout cas, l'option philosophique qui est la mienne, c'est de dire que la conscience malheureuse et la prise de conscience du tragique de l'existence humaine est une raison supplémentaire de chercher à inventer de nouveaux moyens d'être heureux et qui seraient compatibles avec la prise de conscience de l'injustice du monde.
Alors, vous avez parlé de votre option philosophique. Le fait que vous le présentiez comme ça est assez important en tant que tel, puisque ça montre que un plan de dissertation est une option, oui, même une hypothèse de pensée, qu'il y aurait donc, oui, d'autres options et d'autres hypothèses, et que donc le plan que vous proposez n'est pas en tant que tel normatif, il y aurait d'autres plans.
Bien sûr.
Ça, c'est important de le garder en tête, pour savoir qu'il n'y a pas une seule façon de répondre à un sujet, voilà, qu'une bonne dissertation peut prendre plusieurs formes.
Tout à fait. Et ce qui est important, à mon avis, à comprendre de la part des élèves, c'est qu'il y a une grande part de stratégie dans la dissertation, parce qu'il faut souvent avancer masqué, enfin, etc. Mais en même temps, il ne faut pas renoncer à ses convictions. C'est-à-dire qu'il faut être à la fois stratégique dans la démarche et convaincu sur le fond. Et que ce n'est pas parce qu'ils ont, à montrer qu'ils ont acquis des connaissances qu'ils doivent renoncer à l'engagement personnel dans le débat philosophique. Et très souvent, les élèves les plus sérieux se rattachent aux connaissances et les élèves les plus ouverts à la réflexion font confiance à leurs convictions, alors que ce qu'on souhaiterait en tant que correcteur, c'est trouver un habile mélange entre les deux. En fait.
Alors commençons donc avec cette première partie. Vous avez choisi de commencer la dissertation, enfin en tout cas la première partie, par la position inverse qui est celle que vous voulez tenir, à savoir, oui, nous pouvons être heureux dans un monde injuste, et c'est ce qu'on appelle une forme d'hédonisme que vous jugez contemporain, c'est-à-dire qui serait peut-être propre à une certaine époque.
Alors, je voudrais juste rajouter, parce que j'ai omis de le dire, que notre sujet, il a une particularité, c'est qu'il commence par « peut-on ?». Et que tous les candidats à l'examen savent qu'il y a 3 significations possibles à ce peut-on. Il y a soit interroger la capacité, soit interroger la possibilité ou la pensabilité, soit interroger la légitimité. Et moi, je vais donc me servir de ces 3 significations pour les faire jouer successivement dans chacune de mes parties.
Et là, vous montrez effectivement le danger qu'il y a à s'intéresser aux concepts que l'on détecte immédiatement, donc le bonheur et la justice, alors que la formulation du sujet, dans cette formulation, tous les mots sont importants.
Bien
et en
sûr.
Effet, peut-on, c'est pas la même chose que doit-on ou faut-il ?
Voilà, tout à fait. C'est important de s'en souvenir. Et donc, pour commencer, je commence tout doucement en essayant de me demander si réellement nous serions capables d'être heureux dans un monde injuste. Et si je vois les jeunes gens d'aujourd'hui, par exemple, je ne les trouve pas malheureux. Je ne les trouve pas malheureux. Ils savent pourtant que le monde est injuste. Ils en ont le spectacle quotidien à la télévision ou sur Internet. Et pourtant, ils vivent le monde, un monde injuste et très accidenté, comme avec une sensation de bien-être. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de se demander comment c'est humainement possible de se sentir heureux dans un monde pourtant extrêmement imparfait et dont le spectacle de l'imperfection est présenté à nos yeux jour et nuit. Alors, je crois que pour commencer, on peut dire que cette réponse repose sur deux évidences. La première, c'est que le bonheur ne serait pas seulement une aspiration naturelle, ce qu'on a toujours été et ce que les philosophes ont toujours considéré, mais aussi qu'elle est devenue un droit qui serait lié au progrès des sociétés démocratiques. C'est-à-dire que on se sent aujourd'hui légitimé par la démocratisation de nos conditions de vie à désirer le bonheur et à mettre tous les moyens possibles, tous les moyens à notre disposition pour atteindre le bonheur. Et donc si le bonheur n'est plus seulement une aspiration mais qu'il devient un droit, on ne voit absolument pas pourquoi on renoncerait à ce droit sous prétexte que le monde est injuste. La deuxième évidence, c'est que le monde est injuste, mais qu'il l'a toujours été, et qu'il le sera probablement toujours. Et c'est ce que disent aujourd'hui les jeunes gens de bon sens. Ils le disent. Le monde a toujours été injuste. Quand Socrate est mort, a été condamné à mort pour avoir dérogé à la tradition de la cité grecque, le monde était déjà injuste, et il l'est encore aujourd'hui, alors sous d'autres formes, avec d'autres formes historiques, mais il l'est toujours. Si bien que l'injustice du monde devient une sorte de donnée, il faut faire avec. Et à partir de là, on peut même dire et penser très sincèrement et très honnêtement que c'est parce que le monde est injuste qu'il faut trouver précisément des raisons de chercher à être heureux dans sa vie individuelle. Voilà. Et donc, ce qu'on peut faire remarquer, c'est que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est donc donne donc accès très facilement à cette vision du bonheur et à cette façon de vivre le bonheur, et que dans la société qui est la nôtre, nous vivons presque finalement au nom du droit démocratique dans une forme de surréalité. Comme si les médias, au lieu de nous informer, constituaient un décor cruel de notre monde, mais qui nous donne des raisons, de nouvelles raisons chaque jour, de nous replier sur la sphère privée et de chercher à obtenir le bien-être individuel ou familial ou amical.
Alors comment faites-vous pour allier cette réflexion personnelle, Marie-Claude Héron, c'est-à-dire là, on entend vraiment une prise de position, un parti pris par rapport au monde qui nous entoure, au monde contemporain, l'analyse que vous faites notamment de la place que jouent les médias. On pourrait tenir une position inverse en disant que grâce aux médias, nous avons accès à cette injustice qui sans cela nous serait inconnue. Donc en ce sens, peut-être qu'on peut avoir une vision plus positive des médias, du rôle que jouent les médias dans notre société. Donc comment faites-vous pour allier cette prise de position personnelle à des réflexions d'ordre philosophique qui, elles, seraient peut-être plus impartiales?
Alors, je m'appuie sur les écrits de Jean Baudrillard, donc, qui n'est pas un philosophe. Hein. Et donc là, il faut quand même que je dise que...
Les non-philosophes sont autorisés au sein d'une dissertation.
Voilà, en tout cas, sont autorisés par moi. Mais je ne sais pas si à l'examen... Enfin, je pense que... Je donne au moins deux textes de Baudrillard pour appuyer mes dires. Parce qu'en effet, j'estime que je n'ai pas le droit, je ne suis pas philosophe moi-même, je ne me considère pas comme philosophe, je suis professeur de philosophie et donc je dois donner mes sources.
La force idéologique de la notion de bonheur ne lui vient justement pas d'une propension naturelle de chaque individu à le réaliser pour lui-même. Il lui vient socio-historiquement du fait que le mythe du bonheur est celui qui recueille et incarne dans les sociétés modernes le mythe de l'égalité. Toute la virulence politique et sociologique dont le mythe est chargé depuis la révolution industrielle et les révolutions du 19e s'est transférée sur le bonheur. Le fait que le bonheur ait d'abord cette signification et cette fonction idéologique induit des conséquences importantes quant à son contenu. Pour être le véhicule du mythe égalitaire, il faut que le bonheur soit mesurable par des objets et des signes, du confort, comme disait Tocqueville, qui notait déjà cette tendance des sociétés démocratiques à toujours plus de bien-être, comme résorption des fatalités sociales et égalisation de tous les destins. Le bonheur comme jouissance totale ou intérieure, ce bonheur indépendant de signes qui pourraient le manifester aux yeux des autres et aux nôtres, ce bonheur qui n'a pas besoin de preuves est donc exclu d'emblée de l'idéal de consommation, où le bonheur est d'abord exigence d'égalité ou de distinction, bien entendu, et doit, en fonction de cela, se signifiait toujours au regard des critères visibles. Dans ce sens, le bonheur est plus loin encore de toute fête ou exaltation collective, puisque, alimenté par une exigence égalitaire, il se fonde sur les principes individualistes fortifiés par la table des droits de l'homme et du citoyen, qui reconnaissent explicitement à chacun, à chaque individu, le droit au bonheur. I'd like to buy the world a home and furnish it with love. Grow apple trees and honey bees and snow white turtle doves. I'd like to teach the world to sing with me.
Alors, est-ce que ça veut dire que pour cette première partie, on serait contraint de n'utiliser qu'un philosophe contemporain qui serait capable de réfléchir sur la société dans laquelle nous vivons, en tout cas depuis ces 50 dernières années? Ou est-ce qu'un autre philosophe qui aurait vécu à une époque complètement différente pourrait nous fournir des arguments pour justifier cette position?
Alors, on peut aussi, et c'était mon intention, relier mes analyses à ce que dit Arendt dans La crise de la culture. Alors ça, c'est une référence plus classique et donc plus officiellement autorisée. Et donc là, on pourrait montrer que l'analyse qu'elle fait de la culture, on peut la rapporter au bonheur. Hein. C'est-à-dire que finalement, le fait de considérer que le bonheur peut s'acheter, ça change complètement la nature du bonheur et que finalement, on confond une satisfaction qui peut passer par la spiritualité ou en tout cas par l'intériorité, on la confond avec quelque chose de purement extérieur, de purement artificiel, de seulement visible. Alors, mais ça peut rejoindre aussi, hein, parce qu'il est toujours intéressant de faire le lien avec d'autres périodes. Je me plais à le faire avec les élèves, montrer que Épicure, déjà en son temps, dénonce tous les désirs vains comme étant des désirs dangereux. C'est-à-dire ils ne sont pas seulement inutiles, ils sont dangereux. Et quels sont ces désirs? Ce sont les désirs de gloire, de richesse, les désirs de pouvoir, de domination, de luxe. Et ils nous perdent, dit-il, parce qu'ils ont un caractère infini, puisqu'ils ne sont jamais arrêtés par le corps, par la nature, en nous ou en dehors de nous. Donc on pourrait très bien montrer que les analyses d'Épicure sont utiles pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire pour essayer de prendre conscience de la nature finalement assez superficielle et artificielle du bonheur dans lequel nous nous plaisons pourtant.
Donc là, vous avez déjà subrepticement commencé la seconde partie, puisqu'on voit déjà que la prise de position, là maintenant vous êtes de l'autre côté, vous oui. dénoncez, oui. en réalité vous montrez les contradictions oui. de la position que vous avez tenté de tenir oui. durant cette première partie. Donc est-ce que Épicure, justement ce que vous dites d'Épicure et sur le danger qu'il y a à ne suivre que ses désirs, puisqu'en réalité ils nous asservissent plus qu'ils nous libèrent, mm-hmm. et donc ne nous conduisent pas forcément au bonheur, est-ce que ça pourrait faire une bonne transition vers la seconde partie?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on pourrait montrer... Moi, je trouve qu'il est assez bienvenu de déployer la première position. Alors, comme elle est la plus faible philosophiquement, ça n'est pas absolument pas grave si elle est la plus courte des parties qu'on sera amené à faire. Et en fin de première partie, on esquisse déjà les arguments qui pourront nous servir à poser une nouvelle fois la question en cherchant à y répondre sous un nouvel angle.
Alors, ça peut être la partie la plus légère, et pourtant, nous y avons quoi ça crée beaucoup de temps, donc il faut maintenant d'accord, qu'on passe d'accord. à la deuxième partie. Comment est-ce que vous intitulez la seconde partie?
Eh bien, je dirais non. On ne peut pas être heureux dans un monde injuste. Et je parlerai de la conscience tragique et de la conscience malheureuse du monde qui nous entoure.
On réclame la justice, une vraie. Ces gens qui sont morts, on classe les affaires. Au fil des années, on nous endort. Sur les tueurs en question, pas les victimes de la nation. Toujours en liberté, pas condamnés. Je pense à toutes ces familles qui ont perdu la plus chère. Allant déposer quelques fleurs au cimetière. Misère, plainte, pleurs, douleurs. Disparition mystérieuse, horreur, c'est. Que faire pour les ramener? Rien, les barbares devront payer un jour. Répondre leurs actes lors du jugement dernier. Afin qu'ils soient punis pour leur cruauté.
Vous écoutez France Culture, vous êtes sur les nouveaux chemins de la connaissance où nous vous proposons toute cette semaine une série spéciale Bac Philo, en compagnie aujourd'hui de Marie-Claude Héron, professeure au lycée Kerichène, et qui vous propose, en compagnie de ses élèves, de réfléchir au sujet suivant. Peut-on être heureux dans un monde injuste ? trouve ça marrant. Marie-Claude Héron, donc dans cette deuxième partie, vous essayez de montrer qu'on ne peut pas être heureux dans un monde injuste, peut-être une façon de, peut-être un point de départ pour montrer cette impossibilité à être heureux, et comme le chante, hein, ce qu'on vient d'entendre, le groupe Kenzo, une forme de comment dire, d'indignation, de révolte vis-à-vis de ce monde injuste, et donc non pas essayer de cultiver un bonheur qui nous concernerait uniquement, qui ne concernerait que notre personne, mais une forme d'ouverture au monde, et donc d'une forme de révolte vis-à-vis de ce qui se passe, et peut-être cette révolte-là nous montre qu'on ne peut pas être heureux.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de vivre la prise de conscience de l'injustice du monde. On peut la vivre sous la forme de la révolte. Moi, je pense à la figure d'Antigone, par exemple, c'est-à-dire de cette femme qui est prise entre deux types de devoirs, hein, le devoir de fidélité à la loi de son pays ou le devoir à la fidélité à son propre frère et notamment au-delà des sentiments qu'il a liés à lui, à la loi supérieure qu'elle invoque et qui est la loi naturelle. Et donc voilà, Antigone n'accepte pas d'être écartelée entre l'un et l'autre et elle vit l'injustice à laquelle elle est confrontée sous le mode du scandale, c'est-à-dire que elle se révolte, elle crie sa colère, elle manifeste sa douleur, elle appelle le monde à prendre conscience de l'injustice dont elle est victime et donc elle vit dans sa chair la contradiction entre deux lois opposées qui la déchire finalement et pour laquelle elle acceptera de mourir.
Et Antigone de Sophocle donc est en effet une référence très utile, hein, dont on peut beaucoup se servir, oui, dans la dissertation, puisqu'elle, oui, permet d'illustrer et d'étayer beaucoup, oui, de réflexions dans des sujets différents.
Oui. Oui, oui.
Donc vous commenceriez avec cet exemple d'Antigone?
Pourquoi pas. En tout cas, je chercherai à montrer qu'il y a beaucoup de modalités différentes de la prise de conscience de l'injustice du monde. Alors, ce qui caractérise les philosophes, ça n'est pas le scandale. Ça n'est pas la révolte. C'est plutôt une prise de conscience tranquille, mais profonde.
Les philosophes ne sont pas des indignés,
non,
c'est ça que vous dites.
Non. Ou alors, il faudrait qu'il passe à autre chose qu'à la philosophie, en fait. Et le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est évidemment Socrate. Puisque on lui connaît peu de phrases, puisque c'est surtout Platon qui l'a fait parler, mais en tout, dans le peu de phrases qu'on lui connaît et dont il aurait été l'auteur authentique, il n'a jamais cessé de dire qu'il vaut mieux subir l'injustice plutôt que la commettre. Et donc, ça suppose que... Alors, Socrate sait de quoi il parle, puisque lui-même a été... condamné à mort sous des prétextes fallacieux. On l'accusait d'avoir corrompu la jeunesse et d'avoir introduit de nouvelles divinités à Athènes, ce qui était de purs prétextes pour l'éliminer pour des raisons politiques. Et Socrate a préféré mourir pour la cause juste qu'il défendait plutôt que de se rétracter et de renoncer à ce qui faisait le sens de sa vie, c'est-à-dire la lutte pour plus de justice dans le monde, ce qui suppose que Socrate est l'homme ou le premier homme que l'on connaisse qui a dit par le Gnotis et Auton, cherchez à prendre conscience de qui vous êtes, sachez réfléchir à ce qu'est être un homme, à ce qu'on est en droit d'attendre d'un homme, et donc sachez prendre conscience du monde qui vous entoure.
Ce qui montre bien que même si les philosophes ne sont pas des révoltés ou des indignés, leur discours justement peut être d'autant plus dangereux par,
oui,
rapport à
oui,
au discours ambiant, à l'opinion, et d'autant plus dissident de cette façon-là que,
oui,
par la révolte.
Tout à fait. Et donc je pense aussi à Aristote qui, dans l'Éthique à Nicomaque, montre que... Enfin, donne une conception eudémoniste du bonheur et montre que...
C'est-à-dire eudémoniste.
Eudémoniste, c'est-à-dire qu'il considère, comme tous les anciens, que le bonheur est une association, un mixte, entre la vertu et le plaisir. Et que plus on est vertueux, plus on est heureux. Donc, Aristote en vient à parler du méchant. Et il dit bien que le méchant peut connaître le plaisir, mais que ce plaisir n'est pas le bonheur. parce que le plaisir du méchant est un plaisir superficiel, un plaisir éphémère, un plaisir qui se retournera bien vite en son contraire. Et il dit aussi que, puisque l'amitié pour Aristote participe au bonheur de l'être humain, il dit aussi que le méchant n'a pas d'amis ou n'a pas d'amis fiables. Et qu'il est divisé intérieurement entre des passions contradictoires. Il ne fait pas ce qu'il devrait faire. Il a le sentiment intérieur qu'il ne fait pas ce qu'il devrait faire. Donc il n'est pas heureux parce qu'il se vit comme imparfait. Il a des amis qui peuvent aimer le mal ou les plaisirs dégradés comme lui. Et donc il tisse des liens avec autrui qui sont peu solides, puisqu'il suffit que ces amitiés qui sont basées sur le plaisir ou sur l'intérêt se retournent, puisque un ami peut changer d'intérêt ou de plaisir très vite pour que l'amitié se dissipe. Et donc même au niveau de l'amitié, le méchant ne connaît pas le bonheur.
Là, vous pensez au texte de l'Éthique à Nicomaque, oui, d'Aristote. Voilà, je rappelle juste que c'est très important lorsqu'on cite un auteur de citer le texte dont on tire l'argument dont on est en train de parler, parce que ça montre qu'on sait de quoi on parle.
Bien sûr, tout à fait.
Et je pense que c'est toujours très bien vu par les correcteurs d'avoir des citations précises des textes dont on parle. Et est-ce que, alors, vous aviez parlé dans cette seconde partie, parce que là, il va quasiment falloir qu'on passe à la troisième partie. Vous avez employé ce terme quand je vous demandais d'intituler cette seconde partie. Vous avez parlé de conscience tragique. Alors, à partir de quel philosophe ou de quel exemple là, est-ce que vous développeriez le tragique?
Mon intention était de passer progressivement de Socrate à Aristote et d'Aristote à Pascal, parce que chez les anciens, la conception du monde fait que finalement le réel n'est pas tragique. Même s'il y a de l'injustice dans le monde, le bonheur est toujours finalement accessible, pourvu qu'on soit vertueux ou qu'on sache bien désirer. Mais chez Pascal, on change de vision du monde, on est dans une vision judéo-chrétienne, c'est-à-dire on prend conscience du monde par l'intermédiaire de l'idée de péché originel. Et du coup, Pascal est un auteur très intéressant pour prendre conscience de ce qu'on pourrait appeler le caractère tragique de l'existence du monde. C'est-à-dire que pour Pascal, comme pour tout le christianisme, alors peut-être que Pascal en donne une version particulièrement pessimiste, mais en tout cas pour Pascal et les chrétiens, l'homme entre dans l'histoire par la désobéissance, c'est-à-dire par le péché originel, et il est donc nécessairement pendant toute sa vie terrestre un être séparé de Dieu et donc incapable d'être heureux.
Et d'ailleurs, c'est Pascal qui écrit lui-même dans ses pensées: « Ce n'est point de l'espace que je dois chercher ma dignité, mais c'est du règlement de ma pensée. Je n'aurai point d'avantage en possédant des terres. Par l'espace, l'univers me comprend et m'engloutit comme un point. Par la pensée, je le comprends. »
Oui, tout à fait. Donc là, par là, Pascal signifie l'infiniment petit qu'est l'homme, c'est-à-dire la grande faiblesse naturelle qui est celle de la condition de tout homme dans le monde. Alors, il le fait comprendre sur deux plans. Il le fait comprendre sur le plan de l'espace, puisqu'il dit bien que l'homme n'est qu'un point dans l'infini. Et il le fait comprendre aussi dans d'autres textes sur le plan du temps, en fait, hein, pour montrer que l'homme est incapable de se tenir au présent et qu'il est soit dans la fuite de l'avenir, soit dans la fuite du passé, et qui, pour remédier à sa condition malheureuse, au lieu de lutter contre l'injustice du monde, il se divertit, en fait. Il se laisse aller à ce que Pascal appelle le divertissement, c'est-à-dire consacrer toutes ses pensées et tout son temps à des occupations qu'il considère comme fort sérieuses, mais qui vont le détourner de la vérité, qui est celle de sa misère dans le monde.
Et pourtant, il ne condamne pas entièrement le divertissement, puisqu'il montre que c'est constitutif de la nature humaine et que l'homme n'a pas d'autre choix que de se divertir. Mais par rapport au sujet dont nous parlons aujourd'hui, hein, peut-on être heureux dans un monde injuste? Ce qui est important, c'est que le divertissement, en réalité, est une sorte de masque, de déni de cette injustice dont nous sommes les victimes, et l'injustice du monde, et qui conduit, y compris chez Pascal sans doute, à une forme de résignation, en tout cas de passivité. On est là à l'opposé du scandale que vous évoquiez.
Oui, et tout à fait. Et ça montre bien qu'il existe plusieurs formes de prise de conscience de l'injustice du monde, et que ces différentes formes sont ont parcouru l'histoire de la pensée philosophique, mais qu'il y a un indépassable là, dans la prise de conscience du caractère tragique de l'existence humaine.
Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il croit serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux.
Marie-Claude Héron, face au constat de l'injustice du monde, on peut soit s'en scandaliser ou alors s'en accommoder de manière tragique, comme vous l'avez signalé, comme le dit très bien cette chanson, cette magnifique chanson ici interprétée par Barbara. Hein. Mmh. Il n'y a pas d'amour heureux, nous n'avons pas le choix. C'est un constat. C'est un constat qui est fait et qui semble, comme vous l'avez dit, montrer le caractère indépassable de la dimension tragique de l'existence humaine. Une fois que ce constat est posé, comment faites-vous pour proposer une troisième partie dans ce cas et essayer de dépasser l'indépassable ?
Alors justement, je pense que là, on est arrivé à la croisée des chemins et qu'il faut savoir trancher en dépassant par intégration les deux parties qu'on vient d'organiser. C'est-à-dire que la première partie nous a montré qu'il y a des ressorts psychologiques et sociaux très puissants qui nous permettent d'être heureux. La deuxième partie nous a montré que malgré ces ressorts, il y a une capacité de lucidité de la conscience humaine qui le confronte inévitablement au caractère tragique de l'existence. Et donc, on ne pourrait pas retourner à une solution optimiste, naïve. Il faut essayer de dépasser la naïveté pour se demander comment on pourrait éviter de renoncer au bonheur, en montrant que peut-être le plus difficile, c'est de s'imposer d'être heureux, en essayant d'inventer de nouvelles façons de l'être qui nous orienteraient vers la lutte contre les injustices du monde. Nous ne pouvons pas nous résigner au malheur. Nous avons un devoir de chercher à nous rendre heureux, pourvu que nous sachions, que nous ayons à la fois le talent et la volonté d'inventer des formes de bonheur compatibles avec le bonheur d'autrui, ou en tout cas compatibles avec la possibilité pour autrui d'inventer son propre bonheur. Et la condition, ça serait évidemment d'élaborer des conditions plus justes, plus égalitaires, de la société dans laquelle nous vivons.
Alors là, il y a quand même beaucoup de présupposés dans ce que vous dites. Il y a cette volonté d'être heureux qui peut-être n'est pas partagée par tous. Hein, cette envie ou même cette tendance au bonheur est-elle aussi universelle que ça ? C'est pas, selon les philosophes, c'est pas forcément évident. Et puis ces dispositions, ce talent dont vous parlez, qu'il faudrait cultiver pour s'ouvrir à autrui et ainsi accroître le bonheur. Là aussi, on est vraiment dans une dimension bien précise et bien délimité, ce qui n'est pas un problème en soi, encore faut-il, il faut juste l'assumer et l'argumenter peut-être avec, là encore, des références à certains auteurs.
Là, c'est ça, c'est vraiment une option philosophique, c'est-à-dire que à l'examen, on pourra trouver d'autres solutions, des solutions plus tragiques, plus pessimistes, qui
montrent... Oui, ou montrer qu'il ne faut pas à tout prix vouloir être heureux, que le bonheur n'est pas forcément une fin qu'il faut rechercher.
Voilà. Mais donc, évidemment, là, c'est une option philosophique. C'est-à-dire que je montrerai ici que la meilleure façon d'être heureux, c'est certainement de rechercher de façon obsessionnelle le bonheur. Et que pour mieux penser le bonheur et mieux le vivre, il faut se détourner de cette quête obsessionnelle sans y renoncer pour autant. Et je vais chercher cette première idée, ce premier élément de réponse chez Kant, qui dit que finalement, si on cherche le bonheur, on ne le trouve pas, et que chercher le bonheur, en cherchant le bonheur et en ne cherchant que le bonheur, on obtient non seulement son manque ou son contraire, mais en plus, très certainement, l'immoralité. Et donc, je me dirigerai vers une conception d'un bonheur compatible avec la lutte contre les injustices par la voie morale ouverte par Kant, qui dit que nous devons non pas chercher à être heureux, mais chercher à nous rendre dignes du bonheur. et que chercher à nous rendre dignes du bonheur, ça exige de nous que nous fassions des efforts pour lutter pour que le monde dans lequel nous vivons soit meilleur. C'est-à-dire que nous pouvons lutter à l'échelle de notre conscience pour essayer de nous rendre plus moraux, plus attentifs aux autres, plus altruistes. Et que nous avons aussi le devoir de nous ouvrir aux autres, de nous poser la question du droit, des institutions, des relations entre les États, et que cette façon de vivre le bonheur et de le penser, qui ne serait plus focalisée uniquement sur le bonheur, mais qui serait focalisée sur la dignité de l'homme, et certainement la façon la plus humaine de chercher à donner un sens à sa vie. Et donc là, on a examiné la capacité en première partie, la possibilité en deuxième et la légitimité en troisième partie. Et là, on montre que, contrairement aux apparences, il y a une légitimité à chercher à être heureux, pourvu que ce bonheur soit orienté vers l'humanité de soi-même et des autres.
Et donc ce serait avec Kant que vous termineriez votre troisième partie.
En fait, j'avais imaginé une conciliation possible entre Kant et Rousseau. Je renverrais à l'idée qu'on trouve chez Rousseau que l'homme est naturellement prédisposé à vivre en société. Il y a une sociabilité naturelle de l'homme. Il en donne pour preuve le sentiment naturel de pitié. Il constate que malgré cette sociabilité naturelle de l'homme, la dénaturation première a échoué. Donc l'homme vit dans des sociétés qui sont injustes et qui lui interdisent le bonheur auquel il était pourtant prédisposé par le plaisir qu'il y a à vivre ensemble et que l'homme éprouve naturellement. Et donc la solution proposée par Rousseau est de se donner les moyens d'une nouvelle dénaturation qui cette fois serait une dénaturation heureuse puisqu'elle irait dans le sens de la justice. Et pour y parvenir, Rousseau, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ne va pas préconiser d'abord une voie morale, mais la voie politique. C'est-à-dire qu'il pense que si les hommes sont malheureux, c'est parce que le monde est injuste. Et que donc il faut refonder le vivre ensemble sur l'idée de contrat social pour faire finalement émerger la volonté générale du peuple libre. La solution pour Rousseau est donc politique.
Est-ce que c'est sur cette idée d'une solution politique que vous rédigez votre conclusion, Marie-Claude Héron ?
Oui, mais je dirais un dernier mot sur Rousseau. C'est-à-dire que Rousseau imagine que le début de la solution passe par la politique, mais dans l'Émile, qui est son traité d'éducation, il dit aussi qu'il faut que l'homme ne soit pas seulement un citoyen, mais qu'il soit aussi un homme au sens général, et qu'il doit donc essayer de concilier en lui l'individualité, la citoyenneté et l'humanité. Et ça, c'est un dépassement de la solution politique. Ça montre que, en réalité, pour être heureux, il faut vivre avec les autres et se sentir impliqué personnellement par la vie sociale et politique, tout en sachant qu'on ne doit pas attendre son bonheur de l'État. On ne doit pas tout attendre de l'État. C'est-à-dire que notre liberté, c'est aussi de chercher à inventer nos formes particulières et individuelles de bonheur dans le respect de la liberté de chacun et de la dignité de chacun.
Et y compris dans une forme d'action, si je vous suis bien.
Voilà, c'est que du coup, la conception
qui découle de ce que vous dites, c'est voilà. Que ce bonheur-là ne peut se trouver que dans une forme d'engagement
voilà.
Et d'action auprès des autres.
Tout à fait.
Ce qui ferait une bonne conclusion en tant que telle. Est-ce que ce ne serait pas un tout petit peu trop moralisateur, peut-être, de finir sur cette idée-là ?
Moi, je dirais que... Alors, je ne sais pas si c'est moralisateur ou pas. Moi, je dirais qu'il serait impudique et immature et immoral d'être heureux dans un monde injuste. Et pourtant, qu'il serait particulièrement facile de céder au malheur. Et que donc, la prise de conscience de ces deux sortes de réalités exige de nous que nous cherchions à lutter contre le désespoir. En réalité, et que pour lutter contre le désespoir, la solution est politique et philosophique.
Moi, je file un rancard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas parler toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire.
À tous les recalés, de l'âge et du chômage, les privés du gâteau, les exclus du partage. Si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste. Demain, nos noms peut-être grossiront la liste.
Aujourd'hui, on n'a plus le droit.
Merci beaucoup Marie-Claude Héron d'avoir joué le jeu de l'exercice et la dissertation auquel tous les élèves en terminale cette année se prêteront à la mi-juin. C'est donc avec Coluche qu'on termine cette émission, Les Restos du Cœur, ce qui va assez bien avec la dernière position que vous teniez. Je rappelle le sujet qu'on a traité au cours des 50 dernières minutes. Peut-on être heureux dans un monde injuste ? Et je rappelle que vous enseignez donc la philosophie au lycée classique de Kerichen auprès de Terminal L. Et je dois dire que les élèves ont bien de la chance d'avoir une professeure comme vous.
Les autres sont toujours en overdose.
J'ai pas mauvaise conscience, ça m'empêche pas de dormir.
Je renvoie tous les auditeurs, élèves ou pas, au site internet d'ailleurs des Nouveaux Chemins. Vous trouverez en ligne le plan détaillé de la dissertation du jour, les références bibliographiques précises et tous les outils indispensables pour préparer l'épreuve de philo le jour du bac. Je rappelle enfin que ces émissions spéciales Bac Philo sont organisées en partenariat avec Philosophie Magazine, dont le hors-série spécial Bac est en vente en ce moment en kiosque et en librairie. Il est 10h50, vous écoutez France Culture, vous êtes sur les Nouveaux Chemins de la Connaissance et c'est l'heure de retrouver, comme tous les jours, le journal de la philosophie avec vous, François Nodelman. Bonjour.
Bonjour Adèle. L'euthanasie reste un sujet tabou, même s'il est rebattu. Et les candidats à l'élection présidentielle le savent bien. Ils oscillent souvent entre des positions de principe et des arguties qui permettent de ne pas vraiment trancher. Éric Fourneret a écrit un livre justement sur ces problématiques, « Choisir la mort, les débats de l'euthanasie » paru aux presses universitaires de France avec Le Monde. Éric Fourneret, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en philosophie, affilié au laboratoire de recherche, le CERCES, et cette étude a reçu le prix Le Monde de la recherche universitaire. Vous dites en gros que d'habitude, il y a les pour et les contre l'euthanasie à partir de grands principes, mais au fond, la chose ou la situation ou le problème est plus complexe et ce sont parfois les situations ordinaires qui sont source de vérité ou de réflexion plus judicieuse. Pourquoi ?
L'objectif de mon travail était justement de sortir un peu de ce clivage entre les tenants du pour et les tenants du contre. Et avant de produire une réflexion très raisonnée, très rationnelle, j'ai voulu au contraire, comme dit Wittgenstein, descendre de ces hautes montagnes de l'intelligence pour rejoindre le sol raboteux de l'ordinaire. Donc au lieu de prendre la poussière dans la bibliothèque, j'ai voulu aller rejoindre justement ce quotidien des personnes gravement malades, des personnes qui sont lourdement handicapées. Et ce que l'on remarque assez rapidement, c'est qu'au chevet de ces personnes-là, les grands principes éthiques qui sont énoncés par les grands théoriciens de la morale sont suspendus.
Mais au fond, sur les personnes qui sont dans une situation de maladie irréversible, qui sont dans une grande souffrance, peut-on leur reconnaître le droit de mourir, selon eux en tout cas, dignement, sans souffrir atrocement ?
Alors, vous me demandez ce que je récuse tout au long de mon livre de répondre de façon tranchée sur cette question-là. La réponse que je vais vous faire, c'est on ne peut pas apporter une réponse générale à une question où les enjeux sont particuliers à chaque fois. C'est une question personnelle, c'est une question individuelle. Et justement,
il faut qu'elle soit encadrée par le droit.
Et je vais vous faire la réponse très pénaliste, c'est-à-dire celle de Jean Carbonnier. L'absence de droit est parfois plus protectrice que le droit.
C'est là où peut-être il y a une ambiguïté dans votre livre, Éric Fourneret. C'est que vous montrez, c'est la grande richesse de votre livre, tous les arguments qui sont développés dans différents courants philosophiques, moraux, et ça c'est tout à fait passionnant. Mais en même temps, vous adoptez une position de neutralité qui n'est peut-être pas toujours aussi évidente, parce qu'on devine malgré tout, je crois, que vous défendez une position. Alors peut-être voulez-vous vous en défendre encore, mais dans la manière déjà de cibler ce que vous appelez les apologistes de l'euthanasie. Est-ce que véritablement ceux qui réclament un droit à l'euthanasie sont des apologistes ? N'est-ce pas déjà une critique déguisée ?
Alors, ceux que j'appelle les apologistes de l'euthanasie, c'est ceux qui sont très souvent inscrits dans une démarche militante. Mmh. Ce sont les associations comme la DMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, l'Association pour une loi Vincent Humbert. Ce sont essentiellement eux que je qualifie de pro-euthanasie. Donc,
mais apologiste, c'est quand même un mot très très fort.
Mais c'est pourtant ce qu'ils font.
Ah bon, d'accord. Et aussi de réduire, par exemple, la revendication à l'euthanasie au courant libertaire libéral et au droit naturel. On sait très bien qu'il y a beaucoup d'autres inspirations pour la revendication d'un droit à l'euthanasie que le droit naturel. Tous ceux qui sont du côté, par exemple, de l'existentialisme ne pensent pas ce droit-là comme un droit naturel. Or, vous le ciblez à partir de ce courant-là.
Les personnes qu'on a citées, les pro-euthanasie ou les apologistes de l'euthanasie, s'inscrivent justement dans ce discours, dans cette inscription de la philosophie politique et celle de considérer l'individu comme souverain sur lui-même. Et dire que l'individu est souverain sur lui-même s'inscrit justement dans une philosophie du droit naturel.
Pas uniquement.
Pas uniquement, mais ceux en tout cas que j'ai étudié, oui.
Bon, de même, à l'inverse, ne faites-vous pas l'apologie, et tout à fait de manière légitime, mais de la vulnérabilité. Vulnérabilité, c'est un mot évidemment aujourd'hui qui est très très en vogue, avec l'importation de la philosophie du Caire depuis une dizaine d'années en France, et votre souci aussi de montrer combien la souffrance peut avoir un sens, donner sens à la souffrance. D'ailleurs, vous citez le mythe donc ici de Sisyphe. On voit bien que finalement, on peut très bien aussi considérer que la résistance à la souffrance et aussi la volonté de survivre peut donner sens en général à l'existence. Donc là, vous vous dévoilez quand même sur cette optique-là.
Il faut bien faire la distinction entre ma démarche initiale qui était celle de réfléchir pourquoi la méthodologie morale, qu'elle soit d'un côté ou d'un autre sur cette problématique, a autant de difficultés finalement pour trancher sur cette question-là. Donc au départ, mon travail, il était purement méthodologique, c'est-à-dire on prend les arguments des uns et des autres, et ce qu'on se rend bien compte, c'est qu'à chaque argument, on peut le contourner. Voilà. Ensuite, dans un deuxième moment, j'essaie de réfléchir, mais toujours d'un point de vue méthodologique, puisque nous aimons bien les principes éthiques, quel principe éthique va permettre au mieux de raisonner, de réfléchir sur ce sujet-là. La vulnérabilité, ce n'est pas que je veux me faire l'apologiste de la vulnérabilité, mais... Ou alors je le suis simplement d'un point de vue méthodologique. Et que, au bon vieux principe d'autonomie que l'on considère comme le principe éthique cardinal, j'essaie de montrer que la vulnérabilité a cet avantage, le principe de vulnérabilité, a cet avantage de contenir beaucoup plus de la réalité ordinaire que peuvent vivre les grands malades et les personnes lourdement handicapées que le simple principe d'autonomie. Je donne très simplement un exemple. Vous prenez la situation d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. À un stade très avancé, la question de l'autonomie ne se pose même plus. En revanche, avec le principe de la vulnérabilité, et je ne vais même pas parler de principe, je vais tout simplement dire avec, pour point central, la vulnérabilité, on peut réfléchir bien mieux.
Oui, mais ce n'est pas l'équivalent, parce que la vulnérabilité, c'est une situation.
Je n'ai pas dit que c'était l'équivalent.
Oui, non, mais je n'en ai pas du tout sur le même terrain. C'est-à-dire, c'est une situation, la vulnérabilité, alors que l'autonomie suppose ici une démarche qui donne à la conscience la possibilité de choisir et de décider. Donc, on n'est pas tout à fait sur le même terrain du point de vue moral, quoi, il me semble. Hein, mais,
et les personnes qui sont autour de la personne Alzheimer à un stade avancé presque terminal, la question de la vulnérabilité se pose pour eux et la question d'autonomie ne se pose pas parce que la personne peut être dans un état de ne plus pouvoir s'exprimer.
Bien sûr, mais je pense que l'euthanasie, c'est aussi plutôt, enfin, c'est plutôt le droit de l'individu de décider lui-même et par avance de ce qu'on doit faire s'il est dans une situation où il ne peut plus rien décider.
Et comment fait-il s'il ne peut pas. Il faut qu'il se projette dans un avenir.
Bien sûr.
Et qu'il ait un peu des dons de prédiction pour savoir l'avenir, comment il sera fait. C'est un peu difficile.
Nous savons à peu près tous que nous allons mourir, non ?
Et comment ?
Oui, justement, on peut peut-être
en décider. Le problème, c'est que... Mais c'est une question très intéressante que vous posez, parce que on l'entend très souvent, et notamment dans les facultés de médecine, quand on fait de l'enseignement, avec cette problématique de directive anticipée. La loi Leonetti est venue apporter ces procédures un peu bureaucratiques, par certains de leurs aspects, justement pour régler cette question-là. Quand on creuse la question sur les directives anticipées, on se rend bien compte que les choses sont bien moins évidentes, notamment que se projeter dans une fin de vie quand on est bien important, c'est pas la même chose que quand on devient malade. Voilà.
Merci Eric Fourneret. Je rappelle le titre de votre livre, donc « Choisir sa mort, les débats de l'euthanasie » paru aux presses universitaires de France, Le Monde. Vous pouvez retrouver le journal de la philosophie et le podcaster sur le site de franceculture.fr.
Merci François. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite de cette semaine spéciale Bac Philo. Après Marie-Claude Héron, ce sera le professeur Céline Hervé, professeur au lycée Vauban de Brest, qui nous accueillera dans son établissement, en compagnie de ses élèves, pour réfléchir au sujet suivant, la culture nous rend-elle plus humains ? Si vous voulez réécouter cette émission, c'est possible en vous rendant sur le site internet franceculture.fr à la page des Nouveaux Chemins. Vous trouverez également toutes les indications bibliographiques concernant l'émission de ce jour et toutes les indications musicales. Et vous pourrez également télécharger, podcaster cette émission afin de l'installer dans votre ordinateur ou sur votre lecteur MP3 pour pouvoir l'écouter où vous voulez, quand vous voulez. France Culture, il est 10h59. Dans un instant, vous retrouverez Florian Delorme pour son émission Culture Monde.